Oa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 27 octobre 2016. Au sommaire ce soir...
Le Premier ministre français Manuel Valls effectue une tournée en Afrique de l'Ouest. Première escale, le Togo, à partir de demain, vendredi.
Grogne sociale au Tchad. Plusieurs syndicats sont en grève sèche depuis hier.
Moi, en tant que médecin, je reconnais que cette situation elle est difficile, mais ceci ne me permet pas de rester à la maison et de laisser mourir les gens.
Au Burkina Faso, un nouveau rapport des parlementaires sur le secteur minier, index des anciens dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré.
En Afghanistan, deux hauts dirigeants d'Al-Qaïda ont été tués par des drones américains, selon un responsable ayant requis l'anonymat.
Et comme chaque soir, un aperçu de la course à la Maison Blanche.
Puis l'économie et les sports, juste après le journal.
Il affirmait début octobre à Dakar qu'il n'y avait plus de prêts carrés français en Afrique. Une tournée qui fait penser à la future présidentielle dans son pays. Anastasie Tuyesh.
Manuel Valls poursuit ses visites dans une région où la France fait face à une forte concurrence au plan commercial. Il affirmait début octobre à Dakar qu'il n'y avait plus de prêts carrés de la France en Afrique. Au Togo, il visitera le port autonome de Lomé, géré par le groupe Bolloré. En Côte d'Ivoire, il dégustera du chocolat à l'usine Semoy et rendra visite aux militaires français sur la base de Port-Boué à Abidjan. Au Ghana, il visitera un centre d'entraînement antiterroriste. Le Premier ministre français pourrait être candidat de la gauche à la présidentielle de 2017 si le président François Hollande renonçait à briguer un second mandat. Selon son entourage, il entend afficher pendant ce voyage son soutien aux démocraties africaines. Il était passé au Tchad et au Niger en 2014. L'année d'après, il s'est rendu au Mali et au Burkina Faso. Il vient de boucler le mois dernier une visite au Sénégal pour nouer des contacts directs avec les dirigeants et se construire une image d'homme d'État.
Paris ne laisse pas tomber la Centrafrique, c'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault au moment où s'achève officiellement l'opération militaire Sangaris en RCA. Sangaris était une opération difficile, risquée, qui a été menée à bien. Il est légitime que le relais soit pris par la MINUSCA, a-t-il expliqué.
Crise en République démocratique du Congo. Les dirigeants des pays des Grands Lacs réunis à Luanda appellent les États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la Communauté de développement d'Afrique australe à fournir des contingents supplémentaires aux forces de l'ONU en RDC. L'objectif est de renforcer les opérations menées contre les forces négatives dans ce pays en étroite collaboration avec Kinshasa.
Attaque à main armée dans la capitale du Mali. Des hommes ont ouvert le feu sur un jeune qui sortait du siège d'Ecobank, Bamako. Âgé d'une trentaine d'années, il a été blessé à la jambe.
L'ancien chef d'état-major de la marine bissau-guinéenne, José Américo Bubo Natchuto, souhaite retourner dans les rangs des forces armées. Il a été reçu aujourd'hui en audience par le président de la République, José Mario Vaz.
À sa sortie d'audience avec le président de la République, José Américo Bubo Natchuto, a déclaré à la presse qu'il était au palais de la République avec le but de saluer le chef de l'État, José Mario Vaz, après un long et difficile voyage forcé effectué aux États-Unis. Pour son retour dans les rangs des forces armées bissau-guinéennes, l'ancien chef de la marine a dit que tout dépend du commandant en chef des forces armées, le président José Mario Vaz. Bubo Natchuto, on le rappelle, qui risquait un emprisonnement à vie, a été finalement condamné à 4 ans de prison sur des accusations de trafic de drogue. Des missiles étaient retournés le samedi dernier en Guinée-Bissau comme un héros. Bubo Natchuto a été capturé par des agents des États-Unis en avril 2013. Natchuto et ses compagnons ont été arrêtés dans les eaux internationales au large de la côte du Cap-Vert par une équipe de l'agence de lutte contre le trafic de drogue américaine. Nouaman Kali Bissau, VOA Afrique.
En Somalie, un groupuscule djihadiste se revendiquant du groupe État islamique s'est retiré de Kandala dans le Puntland. Leur départ intervient 24 heures après s'être emparé de ce petit port de la région semi-autonome du Puntland.
Un homme a été abattu cet après-midi à l'extérieur de l'ambassade des États-Unis à Nairobi après avoir blessé au couteau un policier en faction. C'est ce qu'on apprend de sources policières. Le point avec Nani Talani.
Selon Vitalis Otieno, le chef de la police du quartier de Guigiri, qui abrite l'ambassade des États-Unis dans le nord de Nairobi, l'homme s'est dirigé directement vers un policier en faction devant l'ambassade américaine, puis a tenté de prendre l'arme de l'agent. L'assaillant a été abattu après avoir porté des coups de couteau au policier. L'ambassade a confirmé qu'il y a eu un incident avec des tirs d'armes à feu. Aucun membre du personnel n'a été impliqué, selon un communiqué de la représentation diplomatique qui a invité les journalistes à se rapprocher des autorités kényanes pour plus de détails. Le policier blessé appartient à l'unité paramilitaire de la police kényane chargée de sécuriser les abords de l'ambassade. Pour le moment, l'identité de la victime reste inconnue. Des enquêteurs kényans et plusieurs membres du FBI ont été déployés sur les lieux pour commencer les enquêtes.
La Tunisie dément avoir permis à Washington d'utiliser son territoire pour déployer des drones en Libye. Pour le porte-parole du ministère de la Défense, Belhassen Wislati, le territoire tunisien n'a pas et ne sera jamais utilisé, n'a pas été utilisé, ne sera jamais utilisé pour frapper des cibles en Libye. Les drones sont utilisés par les Tunisiens et par personne d'autre, a-t-il assuré en réponse à des informations de presse circulant aux États-Unis.
Et drame de l'immigration en Méditerranée, une centaine de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe sont portés disparus au large de la Libye. Les gardes-côtes libyens précisent que 29 sur les 126 personnes qui étaient à bord du canot sinistré ont pu être secourues.
Les autorités françaises ont posé ce jeudi un ultimatum aux derniers migrants campant encore dans le bidonville de Calais, appelé la jungle, pour qu'ils acceptent leur transfert dans les centres d'accueil. Des centaines d'entre eux s'accrochent encore à leur espoir de gagner l'Angleterre, restant malgré le froid ou se dispersant dans la région. Selon des associations, entre 2000 et 3000 migrants ont fui la jungle avant son démantèlement. Les autorités ont pris en charge 6000 migrants, a précisé une source officielle.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux hauts responsables d'Al-Qaïda en Afghanistan ont été tués dans une frappe de drone américain, infligeant une perte sévère au groupe djihadiste dans le pays. Nathalie Barge.
Farouk Al-Qahtani, Bilal Al-Outabi et un autre membre du groupe ont été tués dans un tir de la coalition dans la province de Kunar, selon un communiqué de l'agence de renseignement afghane disant avoir coordonné l'attaque. Il s'agit pour le Pentagone de l'opération la plus importante contre Al-Qaïda depuis plusieurs années, a souligné Peter Cook, attaché de presse du Pentagone. Les États-Unis traquaient Qahtani, un proche d'Oussama Ben Laden, depuis des années, a-t-il ajouté. Il a recruté de nombreux jeunes et sollicitait et distribuait les fonds récoltés dans les pays du Golfe pour financer les opérations extérieures du groupe et celles des talibans en Afghanistan. Al-Outabi a fait de l'Afghanistan une base arrière d'où il menaçait l'Occident et supervisait le recrutement et l'entraînement des combattants étrangers.
La vigilance contre la capacité de financement du groupe État islamique doit être maintenue, même si l'organisation extrémiste perd du territoire en Irak, a averti ce jeudi un haut responsable du Trésor américain qui a requis l'anonymat. Daesh est menacé de perdre Mossoul dans le nord irakien. Bagdad et ses alliés mènent une offensive depuis le 17 octobre pour chasser les djihadistes de la deuxième ville d'Irak.
La Russie a nié aujourd'hui être l'auteur d'un bombardement qui a tué 22 enfants dans une école en Syrie. L'ex-premier ministre britannique et envoyé spécial de l'ONU pour l'éducation, Gordon Brown, a réclamé une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Le démenti émis par Moscou n'a pas convaincu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui a signalé une pareille attaque qu'une ne saurait venir de l'opposition. Pour bombarder, il faut des avions, a fait remarquer le chef de la diplomatie française.
Politique américaine, pour la première fois depuis le début de la campagne électorale, la première dame fait une apparition conjointe ce jeudi avec Hillary Clinton. Michelle Obama avait déjà battu campagne en faveur de la candidate démocrate, cherchant à attirer le vote des femmes et consolider davantage l'avantage de son parti au sein de la communauté noire. Michelle Obama montera sur scène avec Hillary Clinton en Caroline du Nord. Les derniers sondages révèlent une course plus serrée pour la Maison-Blanche entre Clinton et Donald Trump, mais la démocrate reste toujours en tête. Et un rappel des points qui dominent l'actualité ce soir, on a parlé surtout de la visite en Afrique du chef du gouvernement français.
Oui, il affirmait en début octobre à Dakar qu'il n'y avait plus de précaré français. Et donc sa tournée fait penser à la future présidentielle dans son pays.
Et la première escale de Manuel Valls sera le Togo vendredi. Et en RDC, les dirigeants des pays des Grands Lacs réunis à Luanda appellent les États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la Communauté de développement d'Afrique australe d'Afrique à fournir des contingents supplémentaires aux forces de l'ONU en RDC. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique ce soir, c'est avec John Lennon.
Au Mali, le producteur d'or sud-africain Randgold a payé une partie des impôts réclamés par l'État malien et a par conséquent pu rouvrir ses bureaux à Bamako. 15 milliards de francs CFA ont été perçus par la Direction générale des impôts. Ce versement porte sur environ un tiers des aïrés réclamés par l'État. En 2015, le bénéfice net de Randgold s'est établi à 189 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars. Le gouvernement mozambicain a reconnu que sa dette était devenue intenable et souhaitait désormais la restructurer. Cette opération est requise pour rétablir les relations de Maputo avec le Fonds monétaire international. La dette publique du Mozambique, un des 15 pays les plus pauvres au monde, devrait atteindre 130% du PIB en 2016 contre 86% en 2015, selon une note du ministère des Finances présentée à ses créanciers à Londres. Le centre Carter a exhorté mercredi les autorités de la République démocratique du Congo à divulguer les termes du contrat de cession des actions de l'État dans Metalcol, une société mixte de traitement de rejets miniers dans l'ex-Katanga. Selon Bloomberg News, l'État congolais aurait cédé 25% d'actions dans Metalcol, une société conjointe avec la société Eurasian Resource Group.
Les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Éliminatoire du Mondial 2018, on connaît la liste des Lions du Sénégal contre l'Afrique du Sud.
Aliou Cissé a convoqué 24 joueurs pour le déplacement en Afrique du Sud le 12 novembre dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Le sélectionneur du Sénégal annonce le retour de Mambiram Diouf à la place de Moussa Sow, blessé. Le latéral gauche de Strasbourg, Abdallah Ndour, est appelé pour la première fois.
Nouvelle procédure disciplinaire contre Mourinho pour ses dérapages.
Les propos tenus contre un arbitre avant un match de son équipe à Liverpool en championnat, c'était à la mi-octobre. Ces propos sont à l'origine d'une nouvelle procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de l'entraîneur de Manchester United. Mais je pense aussi que si quelqu'un lui met délibérément une telle pression, qu'il aura du mal à être bon, avait déclaré le technicien portugais avant le match nul 0-0 ramené Downfield, c'était le 17 octobre.
Tennis, Angélique Kerber et Dominika Sibukova qualifiées pour les demi-finales du Master féminin.
En dominant Madison Keys en deux manches, 6-3-6-3 à Singapour, Angélique Kerber a enregistré son troisième succès de rang dans l'épreuve et surtout qualifié avec elle Dominika Sibulkova pour les demi-finales. Dans le groupe blanc, la Russe Svetlana Kuznetsova est assurée de participer aux demi-finales avant les derniers matchs de poule ce vendredi. Le dernier ticket ira à la gagnante de la rencontre entre la Polonaise Agnieszka Radwanska, tenante du titre, et la Tchèque Karolina Pliskova.
Et puis, la suite de la reprise de la saison NBA.
Très attendu, Oklahoma City sans Kevin Durant maintenant, répond présent face aux Philadelphia Sixers. Le Thunder démarre par un succès sans forcer, 103-97. Défaite d'Orlando face à Miami, 108-96. Dans les autres résultats marquants de la soirée, Boston est au niveau des attentes puisque les Celtics ont battu Brooklyn, 122-117. L'autre franchise historique, les Lakers de Los Angeles, réussissent à prendre le dessus sur Houston, 120-114. Indiana qui bat Dallas, 130-121 en prolongation. Et puis le fait du jour, le joueur de la soirée, Anthony Davis, et ses 50 points pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Il n'a pas réussi à éviter la défaite de son équipe contre Denver, 102-107. Davis qui rejoint quand même le club très fermé. Des joueurs ayant marqué 50 points lors d'une rencontre, on les nomme Will Chamberlain, Elgin Baylor et la star des Chicago Bulls, Michael Jordan.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Gaby Dorsil en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour.
La vague de retrait de pays africains de la Cour pénale internationale, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et Sidiki Kaba, président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, fondateur de la CPI, ont appelé lundi les pays qui critiquent le fonctionnement de la CPI à ne pas s'en retirer, mais à résoudre leurs différends par le dialogue avec les autres membres. Pour analyser cette situation, John Hindon a joint à Paris Jemal Taleb, avocat et consultant en relations internationales.
La CPI, évidemment, l'a un tout petit peu cherché parce que le sentiment global que les États africains, parce qu'il s'agit d'eux principalement, est qu'elle est un tout petit peu faite pour eux. Vous savez, le vrai nom du juge, c'est courage. C'est un peu ce que nous a appris Casamayor. En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique. Et donc ce sentiment-là, évidemment, crée, bien entendu, chez eux, une espèce d'injustice et donc de rejet de cette justice. Et bien entendu, c'est un constat d'échec très fort pour la CPI elle-même.
Sidiki Kaba et Ban Ki-moon invitent tous ces pays-là à aller sur la table des négociations et à discuter avec la CPI.
Ils sont un peu dans leur rôle. Donc Sidiki Kaba est dans son rôle en le faisant, Ban Ki-moon aussi, et donc on ne peut pas attendre moins de leur part. La question de mon point de vue ne se pose pas comme ça. Le sentiment que les Africains ont déjà, quand il y avait Ocampo qui était procureur général, était qu'ils ne pouvaient enquêter que d'un seul côté. Et puis le sentiment, évidemment, est encore plus accru depuis que c'est Fatou Bensouda, parce que le sentiment est qu'on était frappé par une main de loin, on est aujourd'hui frappé par une main de près. Alors, c'est dramatique en fait pour la CPI elle-même. Et donc le rôle de Ban Ki-moon et de Sidiki Kaba ne peut être que celui-là. Si j'avais un conseil à leur donner, et bien entendu que je n'en ai pas, le conseil serait plutôt, pardon messieurs, vous êtes dans votre rôle, mais écoutez un peu plus les Africains et prenez un peu en compte leurs sentiments par rapport à cette justice-là. Et donc il ne suffit pas de leur dire ne partez pas, donnez-leur des raisons plus sérieuses et plus objectives de rester. Sinon, ils ne resteront pas.
Alors pourquoi, à votre avis, la CPI ne poursuit pas d'autres ressortissants d'autres pays hors continent?
La réponse de la procureure générale ou du bureau de la procureure générale est toujours de dire nous ne disposons pas suffisamment d'éléments. La réalité, et c'est beaucoup plus important, c'est qu'en fait, ils vont là où c'est plus facile. Ils vont là où les enquêtes, d'ailleurs, paraît-il, mais c'est en tout cas le livre de quelqu'un qui était de la maison, M. Brinco, je crois, qui disait, ben, elle va chercher là où les éléments lui sont donnés par les gouvernements en place. Quand vous venez vous occuper de la situation de Jean-Pierre Bemba, vous réglez un problème interne à Kabila. Quand vous venez vous intéresser à la Côte d'Ivoire, un camp plutôt qu'un autre, vous le faites. Mais le sentiment général est celui-là. Et donc l'idée, c'est de dire, oui, c'est la justice des vainqueurs, des plus forts et des plus faibles.
Voilà, c'était Jemal Taleb, avocat et consultant en relations internationales.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Après les enquêtes sur le foncier, les députés burkinabés ont rendu public un rapport sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises extractives. Un rapport qui met à nu plusieurs anomalies dans la gestion du secteur minier au Faso. Et comme dans le foncier, des dignitaires du régime de Blaise Compaoré sont indexés. Le reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Selon les grands traits du rapport des députés, il ressort une importante fraude sur l'or, des comptoirs fictifs d'achat, la spéculation sur les titres miniers, la corruption. Et tout cela a fait perdre à l'économie burkinabé environ 551 milliards de francs CFA. En recommandation, le rapport demande des poursuites judiciaires contre des anciens barons du régime de Blaise Compaoré, Qu'en pense Daniel Dayen, le secrétaire général de Afrique Jeunesse?
Je suis surpris d'entendre son nom parce qu'il ne relève pas du domaine des miniers. À ce que je sache, c'est le conseiller spécial du président, il était. Je n'avais pas cette information et je suis avec certaines populations dans la surprise également, qu'il soit acteur ou qu'il soit mêlé. Aujourd'hui, le lièvre vient d'être levé. Il y a des responsabilités à situer partout. Il y a des responsabilités à situer aussi bien au niveau des entreprises minières que de l'État. Qui?
Journaliste et spécialiste des questions minières, Élie Kabore dit ne pas être surpris par les conclusions de l'enquête. Suivant.
Ce sont des dérives que nous avons toujours dénoncées depuis un certain temps, mais qui n'avaient jamais eu un écho. Je loue cette enquête parce qu'elle a eu le mérite de mettre dans un seul document les difficultés auxquelles le secteur est confronté. Maintenant, il appartient au gouvernement de prendre ce document et de l'analyser d'une manière froide et dégager des perspectives.
Au Faso, beaucoup de personnes pensent que les travailleurs dans les sociétés minières sont des Crésus. Pourtant, tout ce qui brille n'est pas de l'or, assure Achille Tsanou, conducteur de Damper, ce gros camion qui transporte les minerais.
En toute sincérité, nous on est dans les difficultés là-bas, surtout avec les sous-traitants, autant de François Compaoré, les Edila. Je vais être franc, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. On est là, on souffre seulement, on travaille, il n'y a pas de rendement, presque c'est eux qui bouffent tout notre argent. Je pense qu'avec ce rapport, j'espère que les choses vont changer pour le bien de nous les opérateurs d'engins, tous ceux qui travaillent dans les sites miniers.
Le rapport d'enquête a suggéré la création d'une commission de suivi qui intéresse bien l'activiste Daniel Dayen. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La plateforme de revendication syndicale, à savoir l'Union des syndicats du Tchad, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur et la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, est entrée en grève sèche hier, mercredi. Elle revendique les arriérés de salaire et la suppression des mesures de redressement des finances publiques prises par le gouvernement. La correspondance d'André Kodmajinga.
Le secteur le plus touché par cette grève sèche est la santé publique. À l'hôpital général de référence nationale, la désolation est à son comble. Tous les services tournent au ralenti en dehors du service des urgences où, sur l'initiative du médecin-chef du dit service à Nour, Mohamed Abdelaziz, un service minimum est assuré.
C'est vrai, aujourd'hui ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. Moi, en tant que médecin, je reconnais que cette situation elle est difficile, mais ceci ne me permet pas de rester à la maison et de laisser mourir les gens. Ceux qui viennent en urgence, vraiment, nous les prenons en charge parce qu'on ne peut pas les laisser mourir. On n'oblige pas les gens à venir travailler. Moi, je suis d'accord qu'on revendique nos droits. Mais laisser les gens mourir pour revendiquer, moi, personnellement, en tant que chef de service, ma conscience ne me le permet pas.
Malgré l'instauration de ce service minimum, les patients ne cessent de se plaindre. Ahmad Brahim, l'une des victimes, témoigne.
Je viens de perdre mon oncle à cause d'une dysenterie amibienne que, normalement, si les médecins travaillaient, ils devraient trouver une solution à cela. Mais on arrive à l'hôpital, il n'y a aucun infirmier ni un médecin pour le prendre en charge. Et puis, sur le lit des pavillons des urgences, il est mort raide.
Pour Gamo Rémi, un autre patient rencontré dans les couloirs du centre de santé d'Ardjoumbal dans le 3e arrondissement municipal, le gouvernement et les syndicats doivent engager un dialogue franc pour un dénouement de cette crise.
Partout où j'ai fait dans les centres de santé, tout le monde est en grève. C'est les maires qui ont ce sentiment de merde-là, qui continuent à nous aider. Et même pour trouver les médicaments, tout est fermé. Donc cette grève-là nous affecte négativement. Et il faut que le gouvernement essaye de trouver des solutions. Je pense que le pays doit fonctionner à travers des dialogues, des échanges et à travers des planifications. Quand il y a une crise, il faut s'asseoir et discuter pourquoi on a eu cette défaillance-là.
Le syndicat des médecins du Tchad ne soutient pas cette grève sèche. Professeur Mianyal Kabouro est le secrétaire général du dit syndicat.
Je dis non, la grève sèche n'est pas une bonne chose parce que ici, à l'hôpital général de référence nationale, ce ne sont pas les ministres, les députés et les hauts fonctionnaires. Ceux-là, ils s'en vont dans les cliniques privées. Nous traitons la grande masse des gens qui n'ont pas de moyens. Si nous fermons la porte de l'hôpital, nous pensons que nous allons punir la population la plus vulnérable. Et cela est très difficile. Quoi qu'on dise, c'est que la grève cesse, si la situation continue, va s'imposer d'elle-même à nous tous.
André Kodumadjingar, Ndiamena pour VOA Afrique.
Président.
présidentielle américaine 2016, Hillary Clinton et Donald Trump continuent de mettre les bouchées doubles dans les états clés susceptibles de faire basculer le scrutin du 8 novembre. Et le président russe s'est invité aujourd'hui dans cette campagne électorale, si on peut le dire ainsi, Jacques Aristide.
Eh bien, Vladimir Poutine qualifie d'hystérie les accusations selon lesquelles la Russie chercherait à influer ces élections américaines en favorisant le candidat républicain Donald Trump au détriment de sa rivale démocrate Hillary Clinton. Parmi les problèmes mythiques imaginaires, on trouve l'hystérie, je ne peux pas dire autrement, qui s'est développée aux États-Unis concernant l'influence qu'aurait la Russie sur l'élection présidentielle, a déclaré Vladimir Poutine lors d'un discours à Sotchi consacré en grande partie à une critique des États-Unis.
Et Jacques, pendant ce temps, les armes à feu, les menaces et les actions déloyales risquent de peser sur ce scrutin malgré la mobilisation de milliers d'observateurs et militants des droits civiques, n'est-ce pas ?
Oui, des craintes ravivées par les pressions exercées par Donald Trump, qui a appelé ses partisans à surveiller le déroulement d'un vote qui, selon lui, est truqué d'avance. Dans différents États, les électeurs seront autorisés à être armés pour déposer leur bulletin dans l'urne, de quoi inquiéter vu le climat délétère. Un élu du comté du Prince William County en Virginie a pensé à interdire le port des armes dans les bureaux de vote situés dans des lieux privés, en plus des écoles et tribunaux où elles sont déjà bannies. Mais l'idée a tourné court dans cet état où siège le puissant lobby des armes, la National Rifle Association, qui soutient officiellement Donald Trump. Pour l'élu républicain de Virginie, Bob Marshall, c'est au propriétaire du terrain privé où se tient le bureau de vote d'interdire ou non les armes. Plus généralement, des ONG redoutent des actes rappelant les pires heures des intimidations visant les Africains-Américains, notamment dans le Sud. Les Africains-Américains et les Hispaniques penchent majoritairement du côté démocrate et donc de Hillary Clinton. D'après Sherilyn Eiffel de la NAACP, la plus importante organisation de défense des Africains-Américains, pour la première fois en 50 ans, une élection présidentielle va se tenir sans l'entière protection de l'emblématique loi Voting Rights Act de 1965. De son côté, en raison d'un arrêt de la Cour suprême, le ministère américain de la Justice ne pourra dépêcher ses observateurs que dans 4 États. De nombreuses ONG mobiliseront en renfort des milliers d'observateurs et avocats indépendants pour s'assurer de l'équité des opérations également surveillées par des représentants démocrates et républicains.
Merci Jacques Aristide.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
No secret that lately there ain't no escaping that I've been waking up alone. Just me and the TV and a sinking feeling that you ain't ever coming home. But today, the tears ain't gonna hit the floor. Cause the boat's in the bay and it's calling my name, so I'm headed on out the door. Cause the sun's too bright, the sky's too blue, beer's too cold to be thinking about. You're gonna take this heartbreak and tuck it away, save it for a rainy day.
Fin de cette édition, Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde, à la console Marc Ferguson, Morgane Gaillac et Gabi Dorsil à la présentation.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Merci à nos fans sur Facebook, 2 millions, on maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.